Onde durable.
La santé des sols.
Une série pour comprendre les enjeux autour de la sauvegarde, la sensibilisation et la renaturation des sols.
Bonjour à toutes et à tous. Les sols sont la base vivante de nos forêts. 75% de la biodiversité des forêts vit dans le bois mort et dans les sols. Pour mieux les préserver, certaines pratiques sont à favoriser. C'est pourquoi la formation des personnes qui travaillent dans les forêts est un enjeu essentiel. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Baptiste Algaillé, pédologue, secrétaire de l'Association française pour l'étude du sol, référent sur la qualité des sols forestiers. Mais avant, direction Bois-Creux, entre la Sarthe et la Mayenne. Benoît Porcher de RCF Sarthe a rencontré Jean de Falandre, délégué général du comité des forêts. Vous entendrez aussi Mélanie Hardy-Brûlé, animatrice bocage et communication au CIVAM de la Sarthe. Cette association de développement agricole accompagne les agriculteurs et agricultrices vers des pratiques plus autonomes, économes et solidaires.
C'est l'une des composantes des bases vivantes de la forêt. Il y a, on dit souvent, une statistique qui est incroyable, c'est que 75% de la biodiversité est dépendante du bois mort et du sol. Donc en fait, les deux grands écosystèmes biodiversité vont être dans le bois mort, dans toute la partie, et évidemment dans le sol, qui est un réservoir colossal, et que tout propriétaire, tout forestier se doit de préserver. Pour l'illustrer, on va toujours mettre des essences en fonction du sol, et on a 80 essences forestières différentes en France, principalement liées à la différence de climat. Il n'y en a pas la même température quand on est en Méditerranée qu'on est en Pays de la Loire, et donc on a vraiment cette grande chance d'avoir cette diversité de nous, ce qu'on appelle de stations, c'est-à-dire c'est une composante qui va à la fois entre le sol et avec le climat. On a la petite montagne, on a la grande montagne, on a la moyenne montagne, on a les plaines. Alors on passe des sols plutôt acides qui sont l'ouest de la France, au sol calcaire, voilà, on sait que les bons vins se font souvent sur les sols calcaires. Donc voilà, cette diversité de sols en fait une grande richesse et donc ça va avoir un impact sur la flore. On a souvent une plus grande diversité floristique sur les sols calcaires que sur les sols plutôt acides qui composent quand même chez nous dans l'ouest de la France, en Sarthe et en Pays de la Loire, la grosse majorité de nos sols sont plutôt acides.
Sur quel type de sol nous sommes ?
Alors là, on est plutôt sur des bons sols, on est sûrement sur du limon. Alors comment on voit qu'on est sur des bons sols, juste sans faire de trous, puisque là on est en train de parler, d'être en forêt, de discuter, on voit qu'on a quand même différentes essences, on a de la ronce, on voit là-bas qu'on a de la ronce, donc la ronce c'est plutôt un indicateur des sols riches. Si on part par exemple des sols du sud Sarthe qui sont plutôt des sols très sableux, des sols où on va avoir une moins bonne diversité, donc des sols très sableux, très acides, mais drainants, donc ils vont moins bien retenir l'eau, ce qui peut être intéressant pour le tassement du sol l'hiver. Mais là, on est plutôt sur des sols plutôt assez riches. On n'a pas de fougère-aigle. La fougère-aigle est un indicateur des sols très acides. On est plutôt sur des sols riches. On a de la régénération de chêne assez bien. On a du chèvrefeuille, on a du châtaignier, on a du charme. Très bon indicateur aussi, le charme. Dès qu'on a des sols un peu bons, on va dire, on va avoir le charme qui va s'installer.
Et forcément, la gestion, la préservation de ces sols, c'est aussi au cœur de votre travail de forestier ?
C'est évidemment au cœur de notre travail de forestier. On doit absolument les préserver. Ça fait partie du capital de la forêt. Quand les gens parlent capital, on pense argent, mais ce qui est absolument décorrélé de ça. On a le capital bois, mais qui lui passe, parce qu'au fur et à mesure, ça grandit, ça s'éclaircit, ça s'entretient, ça se coupe, mais le sol, lui, il reste tout le temps. Donc, on se doit de le préserver. Comment on le préserve ? On va faire ce qu'on appelle des cloisonnements. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un cloisonnement.
Là, on est en plein dessus, là, pour le coup.
Exactement. Alors, on est vraiment au milieu du cloisonnement. C'est un petit chemin, entre guillemets, qui fait 4 mètres de large, à peu près, et qui concentre les engins forestiers au milieu. Ils ne peuvent circuler que sur ce cloisonnement. Donc on cloisonne les machines sur ce petit chemin de 4 mètres et donc il va être espacé, on va dire, entre 15 et 30 mètres, plutôt 15 mètres pour les résineux et 30 mètres pour les feuillus, et ce qui permet d'éviter le tassement du sol, puisque les machines, même si les machines ne sont pas lourdes, le bois qu'elles peuvent transporter, lui, peut être assez lourd.
Pourquoi c'est important d'éviter de tasser les sols ?
En fait, le sol, c'est le capital, donc il faut qu'on le préserve, parce que 80% du tassement du sol se fait lors du premier passage. Et donc, si on est sur des sols sensibles, donc les sols limoneux sont très sensibles au tassement, et peuvent mettre des siècles à pouvoir se détasser. Donc, on se doit de préserver la globalité des sols, donc on évite que les machines roulent partout. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on n'envoie pas des machines en tout temps, en toute saison, dans les forêts dites sensibles et de production. Donc ici, par exemple, si les sols sont trempés, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup d'eau dans le sol, et ben les machines ne pourront pas aller, puisqu'elles vont faire, sinon elles vont faire des ornières, et là, il va y avoir un tossement hyper important, et là, on a détruit le sol. Donc on focalise les machines à certains endroits et on évite qu'elles puissent rouler partout et on intervient sur des sols détrempés.
Et qui dit bonne qualité des sols forestiers dit arbres en bonne santé et donc une exploitation d'un bois de qualité.
Ça va entre guillemets de pair. Si vous commencez simplement à rouler partout, à tasser le sol, vous allez asphyxier les racines. Et en asphyxiant les racines, vous allez faire mourir les arbres. Donc c'est un bon entretien, c'est plutôt de la logique de bon gestionnaire forestier. Mais il faut aussi être conscient des problématiques des entrepreneurs, des gens qui travaillent en forêt sur ces machines. Il faut bien qu'ils puissent vivre et travailler tous les jours. Donc il faut aussi trouver des forêts qui peuvent s'y prêter. Comme j'ai dit, les forêts de Sud-Sarthe plutôt sableuses, elles sont moins sensibles au tassement. Donc c'est plutôt des chantiers que les professionnels vont se réserver en hiver quand les sols sont trop mouillés. Mais là aussi, dans certains contextes, on ne peut pas rouler partout, il va falloir mettre en place les décloisonnements. Et de temps en temps, il faudra dire stop, parce qu'on ne peut pas se permettre de tasser notre capital, qui est notre sol. 75% de la biodiversité vit dans le bois mort et vit dans le sol. On a besoin d'avoir des sols vivants, on a besoin en forêt, à différence de l'agriculture, c'est qu'on laisse une grosse partie, toutes les feuilles restent sur le sol et permettent de le décomposer. On peut faire un exemple, il y a trois différents grands types de sols, les mules, les morts et les modères, qui permettent, en fonction de la quantité de feuilles que vous avez au sol, ça vous permet de voir l'état d'activité du sol. Plus vous avez un sol qui est actif, plus vos feuilles elles vont disparaître rapidement.
Jean de Falandre nous faisait le parallèle avec l'agriculture et ce n'est pas anodin. Le monde agricole se sert du bois, non pas des forêts, mais du bocage pour préserver leur sol. En Sarthe, le conseil départemental et la chambre d'agriculture peuvent apporter des aides, notamment financières, aux exploitants souhaitant planter des haies. Ils peuvent aussi compter sur le soutien du CIVAM, une association de développement agricole qui accompagne les agriculteurs et agricultrices vers des pratiques plus autonomes, économes et solidaires. Mélanie Hardy-Brûlé est animatrice bocage et communication au CIVAM de la Sarthe.
Alors en fait, le bocage, c'est plusieurs choses, c'est pas que les haies. Il faut savoir que c'est un ensemble paysager ancestral, rural et agricole. Donc là, quand on parle de bocage, on parle de haies, de mares, de bosquets, de prairies. On se rend compte qu'en fait, le bocage, il est vraiment dégradé aujourd'hui. Et donc, c'est dû notamment au vieillissement, l'arrachage, l'entretien mécanique qui dégrade les haies, la surexploitation, etc.
Donc vous, au CIVAM, finalement, vous aidez eh bien, les agriculteurs, notamment, à entretenir ces espaces?
Alors, on les aide dans la gestion durable des haies. On parle de gestion durable des haies. D'abord, quand on fait une gestion qui respecte le fonctionnement des arbres, on s'adapte aux espèces, à la morphologie de l'arbre, qui sont déjà présents en fait, dans la haie. Et on ne cherche pas à en tirer un seul bénéfice. On veut préserver l'ensemble des services que la haie peut rendre. Et ensuite, la gestion durable, c'est aussi une gestion qui pense à plusieurs échelles. Il faut penser à la parcelle, mais il faut aussi penser à l'échelle du paysage. Et surtout, une gestion dans le temps. Parce que la gestion durable, c'est sur un temps long et avec un rythme de croissance des haies qui dépend du sol et du climat.
Donc on a bien compris un plan de gestion durable et des dispositifs qui sont aussi mis en place de votre part, je pense... Au label haie, au bonus haie, qu'est-ce que c'est?
Le label haie, c'est un label où l'agriculteur a un cahier des charges à respecter. Et ça va permettre notamment de créer une filière bois locale. Et ça garantit aussi aux acheteurs en fait, la bonne gestion des haies sur la ferme. Et donc, en plus du label haie, on accompagne les agriculteurs s'ils veulent faire un plan de gestion durable des haies. Donc en fait, c'est un véritable inventaire qui est réalisé sur la ferme, un état des lieux complet. On priorise les interventions qu'il y a à faire et on évalue aussi le potentiel de production de bois. Et donc derrière, pour la valorisation, il y a plusieurs choses. L'agriculteur pourra faire du bois plaquette, notamment pour les chaufferies. On en a beaucoup, nous, des agriculteurs qui font ça, qui font de la litière aussi avec leurs plaquettes. Voilà, il y a plein d'autres choses. Il y a du paillage. Une fois que la litière elle a été retirée des stabulations, elles peuvent être épandues, évidemment, dans les prairies et amender les prairies.
Finalement, la gestion des haies, vous l'avez évoqué en parlant de la valorisation, ça va plus loin que le simple entretien, entre guillemets.
Oui, il ne faut pas que la haie soit vue comme une contrainte, en fait. Il faut que ce soit une véritable aide pour l'agriculteur et une solution aussi économique.
Est-ce qu'on peut aussi évoquer, parler du rôle des sols?
La haie, d'abord, vient filtrer l'eau. Ça, c'est très important. vient stocker du carbone et apporte de la biomasse aussi aux parcelles. Ça régénère totalement la vie du sol et ça rend le sol vivant, bien sûr.
Et s'il est difficile de lier directement et de manière concrète le bocage au sol forestier, Jean de Falandre voit dans ces deux procédés une façon de préserver notre biodiversité.
Un de mes grands maîtres, on va dire, en sylviculture, Jean-Michel Guillet, qui m'a dit toujours « la plus grande forêt française, c'est la forêt de bocage ». Elle est hyper prégnante, elle est vraiment partout. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'haies qui ont été arrachées. Je sais qu'il y a un gros travail qui est fait pour les remettre en place et c'est très important. Mais c'est pareil, on se doit de préserver nos haies comme on essaye de préserver nos forêts.
Voilà pour ce reportage de Benoît Porcher de RCF Sarthe. Nous poursuivons maintenant la réflexion avec Baptiste Algaillé, pédologue, secrétaire de l'Association française pour l'étude du sol, référent sur la qualité des sols forestiers. Avec le projet IPR Sol, l'AFES travaille à la diffusion de bonnes pratiques en matière de sol forestier.
Alors bonjour, je suis donc Baptiste Algaillère, je suis secrétaire de l'Association française pour l'étude du sol. Et dans mes missions, j'ai notamment un rôle de référent du conseil d'administration pour les projets dédiés au sol forestier.
Alors, quels sont les enjeux des sols forestiers? Qu'est-ce qu'on essaie d'améliorer dans les sols forestiers actuellement?
Actuellement, on se rend compte que les acteurs qui sont nombreux, qui sont variés, qui vont travailler en forêt, que ce soit les gestionnaires, les propriétaires ou les gens qui réalisent des chantiers d'exploitation de bois, ils ont une très faible connaissance des sols et des risques de dégradation des sols forestiers. Donc l'enjeu, au même titre que toute autre sorte de sol, c'est de pouvoir former au maximum les personnes qui travaillent en forêt à ces enjeux-là, pouvoir identifier les périodes où il faudrait ne pas faire de chantier et pouvoir un petit peu identifier des sols qui présentent plus de risques que d'autres. Voilà.
Ça veut dire qu'il y a des pratiques forestières qui dégradent la qualité des sols?
À partir du moment où on va préparer une plantation forestière, par exemple, c'est-à-dire travailler le sol, planter des arbres sur des grandes surfaces, puis après laisser pousser ces arbres, les couper pour faire des coupes, enfin il y a différentes sortes de chantiers forestiers, repréparer d'autres plantations derrière, on va faire un travail qui est plus ou moins intrusif et qui va perturber le fonctionnement du sol et forcément avoir un impact. Après, évidemment, il y a toute une gradation entre des pratiques qui sont plus ou moins impactantes pour le bon fonctionnement du sol.
Et en France, dans les forêts françaises, quel est l'état du sol?
Alors évidemment, c'est une réponse où on ne peut pas dire bon ou mauvais. Ça dépend beaucoup des endroits. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sols forestiers, ils ont une particularité. Et ce n'est pas du fait qu'ils soient forestiers, mais c'est plutôt l'inverse. On a les sols qui étaient les plus faciles à cultiver, les plus fertiles, entre guillemets, pour faire de l'agriculture, on les a cultivés. Les sols qu'on n'a pas cultivés, donc les sols qui sont trop caillouteux, trop en pente, trop en altitude, trop acides, c'est des sols qu'on n'a pas cultivés, donc sur lesquels s'est développée la forêt. Donc finalement, nos sols forestiers, c'est des sols qui ont déjà, quelque part, une sorte de handicap naturel. C'est des sols qui ont des contraintes à la mise en culture et qui sont aussi souvent plus fragiles, plus sensibles à certaines pratiques. Donc c'est des sols sur lesquels il va falloir faire très attention dans certains cas. Attention au tassement, par exemple, lors de passage d'engins. On sait que sur des chantiers forestiers, on a des engins de grande taille qui ont un gros poids et qui vont venir compacter les horizons de surface. Les sols qui sont compactés, c'est des sols où l'air et l'eau circulent très mal. Et si l'air et l'eau circulent très mal, c'est tout le fonctionnement du sol qui est atteint. Et donc, finalement, même la fertilité pour les arbres qui sont plantés qui va être réduite. On peut aussi avoir des impacts sur l'export de bois, parce que dans certaines parties des arbres coupés, notamment les petites branches et les feuilles, on va avoir une concentration de tous les sels minéraux qui ont été puisés dans le sol. Et si ces sels minéraux ils sont exportés avec l'arbre en entier, eh ben, ils ne sont pas restitués au sol et petit à petit, notre sol va s'appauvrir. Et comme on est sur des sols qui sont déjà handicapés, parce qu'ils sont parfois très acides, ils vont être très sensibles à l'export de sels minéraux supplémentaires. Donc il faut savoir ça. Et pour ça, on a mis en place notamment un système de référents, plus ou moins locaux, qui vont essayer de diffuser en quelque sorte la bonne parole, les bonnes pratiques. à l'intégralité des acteurs du secteur forestier. Donc c'est au sein d'un projet qui s'appelle IPR Sol. I pour identifier, P pour prévenir, R pour réduire les risques de dégradation des sols forestiers. Donc actuellement, c'est le deuxième volet du projet et on est en train d'essayer d'essaimer tous les formateurs qu'on a, enfin tous les référents qu'on a déjà formés un peu partout en France. Certains de ces référents vont former d'autres référents au sein de formations. Et pour ça, on a tout un cycle de formation qui va démarrer en début d'année, en fin février 2026.
Donc c'est la FES hein, qui a mis en place ce projet. Quelles sont les grandes lignes en fait, de ce qu'on donne comme formation sur ces enjeux ?
Alors ça se déroule en deux temps. Le premier temps, c'est une formation en distanciel où on va s'intéresser à comment décrire un profil de sol, notamment en forêt, parce que les sols forestiers ont quand même certaines particularités, notamment ils ont des matières organiques qui vont s'accumuler à la surface du sol pour former ce qu'on appelle l'horizon holorganique ou la forme d'humus. Donc ça, il faut aussi apprendre à décrire ça pour avoir une compréhension du fonctionnement du sol forestier. Et on va essayer de former les gens, on va former des gens à la compréhension, à la mise en place de différents diagnostics, des diagnostics qui sont liés à la sensibilité des sols au tassement, dont on parlait tout à l'heure, à la sensibilité à l'export des menus bois, donc des petites branches et des feuilles, donc sensibilité finalement à l'export d'éléments chimiques, à la sensibilité à l'érosion, parce qu'il y a aussi possiblement de l'érosion en sol forestier, notamment après des coupes rases, c'est-à-dire on va avoir une grande surface qui était couverte par de la végétation. On va récolter les arbres, entre guillemets, et du coup, ce sol va être exposé aux caprices de la météo et donc sensible à l'érosion. Et aussi en termes de détermination du réservoir utilisable, c'est-à-dire la quantité maximum que peut contenir l'eau, le sol, la quantité maximum d'eau que peut contenir le sol.
Ne pas trop donner d'eau, ça veut dire ?
Non, c'est pas ne pas trop donner d'eau, c'est les sols ne sont pas égaux. Il y a des sols qui peuvent retenir beaucoup d'eau, il y a des sols qui peuvent retenir pas beaucoup d'eau. Les sols qui peuvent retenir pas beaucoup d'eau, ils seront plus soumis à des stress hydriques. Et du coup, il faut considérer cette donnée quand on va planter un arbre. Ce qu'il faut savoir en forêt, c'est qu'on est sur des pas de temps assez longs. Ce n'est pas la grande culture où on va récolter dans l'année. On plante un arbre et on va le récolter dans plusieurs dizaines d'années. 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et on sait qu'en plus, en contexte de changement climatique, le climat aujourd'hui n'est pas du tout le même qu'il y a 60 ans. Enfin, il a varié. Il a bougé et ces variations, elles vont être encore plus fortes dans 60 ans. Donc les arbres qu'on plante aujourd'hui, il faut pouvoir aussi anticiper un petit peu des contextes climatiques plus contraignants. Le changement climatique, il va intervenir comme un révélateur finalement, bon, un révélateur significatif, puissant. Mais c'est-à-dire que il y a des tas de stations forestières, de parcelles forestières qui présentaient finalement, on ne voyait pas trop les effets négatifs des mauvaises pratiques, mais en contexte de climat plus contraignant, on va les voir ces problèmes. Et ces problèmes vont s'accumuler pour devenir finalement des problèmes significatifs à l'échelle du peuplement et de sa croissance. Je parle d'ailleurs beaucoup de forêts de production, entre guillemets, mais ça s'adapte tout à fait aussi aux forêts qui sont aussi des réserves de biodiversité. Et c'est aussi un intérêt à ce que ces forêts puissent garder leur durabilité pour pouvoir continuer à remplir ces fonctions de puits, de refuge, de biodiversité.
Est-ce qu'on peut dire que c'est mettre en place quand même essayer de mettre en place des pratiques plus durables dans la gestion des forêts ?
Absolument, c'est une bonne synthèse.
Et est-ce qu'il y a des freins et des opportunités à ces pratiques durables dans la gestion forestière ?
Ben, l'opportunité... Je ne vais pas forcément parler des freins parce qu'on démarre. Il faut qu'on arrive à former plein de gens qui forment plein de gens pour que ça fasse un peu un effet boule de neige. En général, ce qu'on observe, c'est que nos interlocuteurs dans le monde forestier, ils sont toujours intéressés par ces questions de sol. Simplement, ils partent de plus loin, ils sont plus en amont dans le chemin de la connaissance. Il faut qu'ils se forment, comme sur toutes les thématiques. Mais à partir du moment où les gens ils sont formés, ils comprennent les enjeux. Et tout le monde a envie de faire au mieux et que ce soit durable. Parce que même, on pourrait parler d'enjeux économiques à court terme, mais dans un contexte de milieu de plus en plus contraignant, finalement, les pratiques vertueuses pour la durabilité de la forêt et les pratiques vertueuses économiques, elles se confondent. Évidemment, si on fait des pratiques qui font que notre forêt pousse moins vite, et ben, économiquement, on va aussi avoir un handicap et des contraintes, un résultat qui ne sera pas satisfaisant. Donc moi, je crois vachement à la convergence des objectifs. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens, quand ils comprennent l'importance de ne pas compacter des sols, c'est-à-dire faire passer les machines seulement dans des chemins de passage qui sont dédiés à ça exclusivement, et faire circuler ces machines dans des chemins seulement quand le sol il n'est pas trop humide, donc il est assez portant pour supporter le poids exercé par la machine, les personnes sont assez faciles à convaincre. Et on n'est pas là pour les convaincre, on est là pour les former. Après, le bon sens fait qu'elles comprennent que c'est dans leur intérêt.
Et ces sols forestiers, vous disiez, ils sont plus sensibles, mais en même temps, ils sont aussi de leur spécificité, une biodiversité qui leur est propre et qui est à préserver aussi pour ça.
Ben oui, la forêt, elle a aussi un rôle, l'écosystème forestier dans son ensemble, il a aussi un rôle et des fonctions et des services rendus à toutes les sociétés humaines, au-delà du simple production de bois, ou etc. Il y a des refuges de biodiversité, il y a des puits de carbone. Quand le carbone est fixé dans les plantes ou dans les sols, ben, il n'est pas dans l'atmosphère. Du coup, on peut limiter l'effet du changement climatique. Donc, le sol, c'est vraiment la clé de voûte de l'écosystème forestier. Et parce que ça a une importance capitale, c'est très important que les gens comprennent comment fonctionne le sol et comment fonctionne le sol en contexte forestier.
Et là, donc, vous avez commencé les formations. Et quelles sont les prochaines étapes de ce projet ?
Alors, l'objectif, c'est de former le plus de monde possible. On démarre cette deuxième génération de formation où des référents qui ont déjà été formés lors des premiers projets vont pouvoir devenir formateurs et eux-mêmes former de nouveaux référents. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a une première moitié en module distanciel où on va acquérir de la théorie sur différentes thématiques liées au sol forestier. Puis après, il y a 2 jours en présentiel où on va tout d'abord mettre en pratique, en groupe, tout ce qu'on a appris en théorie, parce que la pédologie, c'est une science de terrain, et si on n'a pas les mains sales à la fin de la journée, c'est qu'on n'a pas fait son travail. Donc il faut apprendre à se salir les mains pour faire bien son travail. Et ensuite, il y a la mise en place d'un atelier de sensibilisation, parce que c'est un petit peu la sortie principale de cette formation, c'est que les référents soient capables de construire et de mener à bien et d'animer un atelier de sensibilisation sur un endroit donné, dédié à tous les acteurs qui sont invités et qui travaillent de près ou de loin en forêt.
Vous venez d'écouter La santé des sols.
Une collection de reportages produites par la CORLAB, coordination des radios locales et associatives de Bretagne,
et la FRAP, Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
En partenariat avec l'AFES, l'Association française pour l'étude du sol, dans le cadre du projet Onde Durable.
Ces reportages sont à retrouver en ligne sur onde-durable.fr.
Onde Durable est un projet soutenu par l'État
dans le cadre de France 2030 et du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2,
opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.